RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. Le 12 juillet, le coup d'envoi de l'année culturelle du Japon en France sera donné. Japonisme au pluriel, c'est le nom de cette manifestation. On y verra, on y entendra le Japon à travers des spectacles, des expositions, des films. L'occasion aussi de découvrir l'art de vivre à la japonaise entre culture traditionnelle ancrée dans l'histoire de ce pays d'Asie et une culture contemporaine à la pointe de la technologie. Direction donc aujourd'hui le Japon à la rencontre d'artistes et d'acteurs culturels du pays. Le Japon dans tous ces états, une année culturelle du Japon en France, un grand reportage de Muriel Mahalouf.
Là, on est sous la tour de Tokyo, qui est une sorte de tour Eiffel, en fait, une
Exactement.
Réplique de la tour Eiffel. On est dans la nuit, on la voit.
Alors, en fait, la tour, elle est orange, déjà, contrairement à la tour Eiffel qui est beige. Et dans la nuit, on éclaire en couleur plutôt orange, donc couleur chaude, pendant l'hiver. Et en été, ça va changer en blanc. Donc, parce qu'il fait très chaud à Tokyo, donc on aimerait voir la lumière plus fraîche. C'est pour ça qu'on se permet de changer la couleur de lumière selon la saison.
Lisa Ishii est conceptrice lumière comme sa mère, Motoko Ishii. Mère et fille s'empareront de la Tour Eiffel à Paris pour l'illuminer en musique durant deux nuits.
Alors en septembre, nous allons habiller la Tour Eiffel avec la beauté du Japon. Donc on va éclairer en couleurs, on va projeter des images des œuvres traditionnelles, donc des trésors nationaux, tout ça, sur la Tour Eiffel. Donc le 13 et le 14 septembre de nuit.
Autre symbole de la culture française avec la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre sera aussi à l'heure du Japon. Dès l'ouverture de Japonisme, le 12 juillet, Kohei Nawa inaugure une œuvre monumentale sous la pyramide. Direction son atelier dans les faubourgs d'Osaka. Nous voilà à Sandwich. C'est le nom de l'atelier de Kohei Nawa qui s'est installé dans une ancienne fabrique de sandwich. Là, au milieu des champs, l'artiste, nourri par la nature, les rituels traditionnels, crée des œuvres qui font appel à des technologies de pointe. Throne ou Trône, l'œuvre qui prendra place sous la pyramide, est en gestation. La maquette représente une sculpture de couleur or. Un trône, comme un insecte, aux formes acérées, s'élevant dans le ciel, qui accueille en son sein un minuscule personnage. Kohei Nawa.
On va présenter l'œuvre au Louvre sous la pyramide. Donc j'ai réfléchi à la relation entre l'œuvre et l'emplacement. Depuis l'Antiquité, depuis la période de l'Égypte ancienne, de la pyramide, pendant des milliers d'années, le pouvoir a perduré. Peut-être dans l'avenir, il va disparaître ou continuer à exister sous la forme de l'intelligence artificielle qui peut remplacer celle de l'homme. C'est ce futur que je crains en quelque sorte qui m'a poussé à créer cette sculpture.
Autre atelier, celui du collectif Team Lab à Tokyo cette fois. C'est aussi là que s'ouvrira bientôt le musée digital du collectif. Car chez Team Lab, tout est numérique. La matière a disparu et les œuvres dans lesquelles le visiteur est en immersion sont des projections. Leur exposition fait escale à Paris en ce moment, à la grande halle de la Villette. Toshiyuki Inoko est le directeur artistique. Il nous guide dans son musée.
Once the lights are turned off, you can't see the actual screens. You will only see the projection on it.
Quand la lumière s'éteint, on peut voir l'image sur les écrans. Des écrans mous. Et ils sont ronds pour permettre aux visiteurs de marcher parmi les écrans, comme à travers un champ.
No, it breaks. No, it's okay.
Un champ de fleurs nous entoure, des lanternes traversent l'espace. Chez Team Lab, la projection a remplacé l'œuvre matérielle. Pourquoi pas, si ce n'était la pauvreté du dessin proposé et la musique digitale sans grande inventivité. Remontons dans le temps et allons à Kyoto.
Nao-san, où on rentre ici ?
Alors, c'est le temple Shokokuji, qui a été construit en 1382. Oui, alors c'est un des grands sectes du bouddhisme zen. Et donc, on va visiter ensemble Et à la fin, il y aura un musée très intéressant qui vous attend.
Et quelle est l'importance de ce temple par rapport aux peintres ?
Le temple Jakchu, il venait périodiquement ici pratiquer le zen et il a connu un prêtre. Et ce prêtre a en fait nommé cette personne Jakchu. Alors ça, c'est les liens qu'il y a entre le peintre Itō Jakchu et ce temple.
Itō Jakchu, peintre du XVIIIe siècle, a mis 10 ans pour réaliser un ensemble de 30 rouleaux intitulé « Images du royaume coloré des êtres vivants ». Des œuvres hautes en couleurs avec un souci du moindre détail qu'on pourra voir pour la première fois en Europe au musée du Petit Palais à Paris en septembre. Un régal pour les yeux. Qui dit Japon dit Shinkansen, le train à grande vitesse le plus précis au monde. Nous voilà embarqués dans un wagon tout confort, muni de bento, le plateau repas japonais. Arrivé à Osaka, où le grand architecte Tadao Ando est installé, cet autodidacte, lauréat du Pritzker Prize, le prix prestigieux d'architecture, rénove actuellement la Bourse du commerce à Paris pour le compte du collectionneur François Pinault. Il a conçu le musée d'art contemporain de l'île de Naoshima qui se fond dans la nature grâce à des bâtiments enterrés dans le sol. Une rétrospective lui est consacrée au centre Pompidou cet automne. Il nous reçoit dans son bureau, un immeuble moderne, serré parmi les bâtiments où se pressent les assistants. Une véritable ruche. Le maître nous reçoit au dernier étage, vu sur une petite cour où une œuvre d'art contemporain, suspendue, croise un arbre.
Donc l'architecture, c'est créer un endroit pour les échanges. Des cœurs humains. Donc, c'est l'esprit qui compte.
Et Tadao Ando, si vous deviez définir la culture japonaise, de quoi elle est faite, qu'est-ce que vous me diriez ?
Donc, la culture japonaise, c'est la création des endroits où les âmes s'incarnent. Par exemple, le théâtre No, c'est l'univers des cœurs, de l'univers spirituel.
Le théâtre traditionnel No, où les vivants et les morts se côtoient sur scène, sera donné à la Cité de la Musique. On pourra admirer cet art vivant transmis depuis des siècles à la gestuelle précise et où le masque domine. Et pour la première fois, le public français aura accès au Gagaku, qu'on a pu voir en présence de l'empereur et de l'impératrice du Japon. Arrivé au jardin du palais impérial.
Je m'appelle Kurihito Masuda, je suis directeur général du bureau du japonisme dans la fondation du Japon.
Monsieur Masuda, nous sommes où là ?
Ah, on est dans le palais impérial, n'est-ce pas madame ?
Dans le jardin déjà ?
Oui, dans le jardin, oui. On va assister maintenant au concert de Gagaku. Gagaku, c'est un orchestre, plus ancien orchestre du monde.
Il date de quand ?
Ça fait très longtemps, le Moyen-Âge, alors oui, je ne sais pas vous dire, mais 1000 ans, oui, plus de 1000 ans.
Est-ce que c'est exceptionnel un concert dans le palais impérial ?
Très rare, c'est un concert exceptionnel. Vous avez beaucoup de chance, madame.
Et vous y êtes déjà venue ?
Personnellement, pendant 58 ans, c'est pour la première fois pour moi-même aussi. Même pour des Japonais, c'est une expérience très très précieuse.
Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste, cette musique ?
Ah, finalement, c'est Gagaku, justement, vous allez entendre tout à fait différent de style occidental, mais vous allez sentir l'harmonie et le respect, comme ça, vis-à-vis des natures, vis-à-vis des hommes, quelque chose de spirituel.
Et quelles sortes d'instruments de musique sont employés ?
Ah, plusieurs instruments traditionnels. Ça remonte, je crois que la plupart d'instruments, c'est provenant de la Chine, mais ancien en Chine. Alors, par exemple, il y a l'arc japonais. Ça, c'est, on ne peut pas trouver en Chine actuellement. On garde toujours comme ça quelque chose de très ancien jusqu'à aujourd'hui. C'est une continuité de la tradition.
Alors, un concert comme celui-là dans le palais impérial, c'est émouvant pour vous.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous aussi, non ?
Complètement. Je vous remercie.
Merci.
Je m'appelle Hiroki Togi, je suis le chef d'orchestre du Gagaku impérial.
Parlez-moi de ce répertoire, de quand il date et qu'est-ce que vous allez présenter en France, à Paris ?
Ce sont des pièces qui datent de l'ère Heian, qui remontent vers le 6e, 7e siècle.
Et quel genre de pièces vous allez présenter ? Il y aura de la musique, de la danse, je crois. Quel genre de pièces ?
À Paris, nous allons présenter trois sortes de pièces. D'abord, des pièces plutôt instrumentales, puis du chant et enfin la danse.
Quelle mission vous sentez que vous avez ?
Je pense que ma mission est de transmettre ce répertoire sans rien changer, pour bien conserver notre tradition.
Et vous venez vous-même d'une famille de musiciens. Cela fait combien de générations que vous transmettez cet art dans votre famille ?
J'appartiens à la 38e génération.
Rendez-vous à la Philharmonie à Paris en octobre pour le concert de Gagaku. La culture japonaise, c'est aussi l'art culinaire, riche et varié. Cérémonie du thé ou gastronomie. Lisa Ishii, conceptrice de lumière, nous emmène dans son restaurant préféré.
Donc là, on est dans un restaurant traditionnel. Qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, nous allons déguster différents petits plats de tradition Edo, donc ancien nom de Tokyo, suivi par le marmite de sukiyaki, du poulet. Donc c'est la spécialité de ce restaurant, donc qui est aussi notre grande tradition.
Un restaurant qui s'appelle comment ?
Alors ce restaurant s'appelle Inshote, un des plus anciens restaurants de Tokyo. Le nom Inshote qui paraît très court, mais il y a une très grande poésie dedans. Donc ça veut dire littéralement le son de cloche du temple à côté sonne dans les arbres de pin.
Extraordinaire.
Voilà, donc il y a une poésie dans le nom du restaurant. J'espère que ça vous allez passer une belle soirée.
Sûrement.
Merci. Kanpai.
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 De, せっかく 京都までお見えになられて。
Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous accueillir à Kyoto, dans la maison de Ola Senke. Donc j'aimerais vous présenter, offrir une séance de thé.
Donc,
peut-être en France aussi, on a plusieurs occasions de consommer du thé ou du café dans l'après-midi, mais comme l'histoire du thé remonte à l'Antiquité et il est venu arriver au Japon de la Chine, on a également on peut retrouver le concept de Dieu ou le Bouddha dans cette séance.
On n'a pas que des choses traditionnelles, on a des choses modernes, contemporaines. Alors donc c'est le but de Japonisme 2018 aussi, de montrer la diversité de notre culture.
Un large programme de théâtre contemporain s'étale en effet tout le long de Japonisme, dans plusieurs théâtres et en collaboration avec le Festival d'automne à Paris. Satoshi Miyagi, le metteur en scène japonais qui a conquis le public au Festival d'Avignon en 2014, avec sa mise en scène du Mahabharata, revient présenter l'épopée indienne à la Villette. Dans sa mise en scène, il puise dans la gestuelle du théâtre japonais traditionnel, ponctué de musique. Satoshi Miyagi est installé à Shizuoka, à 1 heure de Tokyo. Il se partage entre son théâtre dans la cité et le Performing Arts Center, un lieu culturel hors du temps, en périphérie de la ville, en pleine forêt.
La culture japonaise a été influencée par deux cultures, la chinoise et l'indienne. Je voulais voir comment une culture indienne pouvait se rapprocher de la culture japonaise, parce que je trouvais important dans notre monde aujourd'hui de voir comment la chimie pouvait opérer entre deux cultures. En Inde, le diable est conçu comme un mal absolu. C'est un être qu'il faut abattre, on n'a pas le choix. Mais au Japon, on ne peut pas imaginer un mal absolu. En japonais, il y a une expression qui veut dire « le diable s'insère dans nos cœurs ». Et ça parle d'un état où le mal domine le cœur, mais ça ne veut pas dire que la personne soit un mal absolu. Donc, dans notre Mahabharata, le traitement du diable est typiquement japonais.
Chez Satoshi Miyagi, le jeu des acteurs peut être minimaliste, une approche qui prend sa source dans la culture japonaise.
C'est une approche dans laquelle chaque personnage n'extériorise pas tout ce qu'il sent, tout ce qu'il pense. Il n'exprime que 30% de ses sentiments et fait imaginer le reste par le public. Du coup, les gestes deviennent très concis. Donc si on comparait avec une langue, ce serait comme un haïku. Le texte est assez rare, mais c'est une expression concise et concentrée.
Direction le SPAC, le Performing Arts Center. À une heure de Tokyo, à quelques minutes de Shizuoka, le lieu est un havre de paix. En pleine forêt, en face du mont Fuji, trois théâtres, des logements d'artistes constituent le terreau idéal pour la création. Visite avec Yoshiji Yokoyama, dramaturge et programmateur.
On est en pleine forêt. En fait, on est dans la montagne. Ici, donc, c'était un sanctuaire assez important jusqu'au Moyen-Âge, hein, parce que, en fait, juste derrière la montagne que tu vois, c'est la mer. Hein. Quand on voit cette montagne depuis la mer, hein, on a l'impression qu'il y a une montagne qui pousse de la mer. Hein. Et c'était l'image du paradis dans le bouddhisme japonais. C'est aussi pour ça que c'est un site assez important.
Il y a beaucoup de monde qui travaille ici.
Au SPAC, il y a à peu près 90 personnes qui travaillent en moyenne. Mm-hmm. Donc il y a une trentaine de comédiens. Je pense qu'il y a 18 personnes pour la production, il y a une vingtaine pour la technique.
Et là, c'est quoi les indications? Elles sont en japonais, c'est quoi?
Le bureau, le théâtre en plein air, la salle de répétition et le théâtre ovale.
Le SPAC attire une foison d'artistes tous les ans. Claude Régis, le metteur en scène français, fait partie des habitués. Il fréquente le lieu depuis 10 ans. Sa dernière création, Rêve et folie, de Jörg Trakl, vient d'y être présentée. Le monologue est interprété par Yann Boudot.
C'est vraiment un lieu qui prédispose au travail. Ici, j'ai l'impression qu'il y a de l'espace et du temps. À la différence de Tokyo, par exemple, où il n'y a absolument pas d'espace et de temps. Tout est très compressé, tout est très étroit. C'est vraiment la mégalopole par excellence. Et là, on se trouve dans un endroit où, au contraire, il y a de l'espace entre les habitations, entre les studios, entre les théâtres. Il y a du temps, il y a de l'espace, il y a de la nature. Il y a comme une grande respiration.
Et ainsi, japonisme, l'année culturelle du Japon en France, se placera peut-être entre la forêt et la ville. Une saison reflet de la culture japonaise, entre la tradition la plus pure et la modernité la plus avant-gardiste à la pointe de la technologie. Une dualité au cœur de ce pays et peut-être au cœur de chaque Japonais. Une culture complexe, raffinée, où la beauté est un maître mot. Le respect étant un autre, respect de la nature, de la hiérarchie, dans une société extrêmement codifiée que le public français pourra peut-être légèrement percer en cette année culturelle du Japon en France. Le Japon dans tous ses états, une année culturelle du Japon en France, un grand reportage signé Muriel Mahalouf. Merci à l'interprète Mayumi Umehara, réalisation Pierre Chaffanjon.